Mesdames, messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission, Les Tontons Farmeurs, une émission qui...
Les Tontons Farmeurs, l'émission qui dézingue les idées reçues sur l'agriculture. Une émission animée par Jean-Paul Hébrard de TV Agri.
Une émission pour vous, les agriculteurs.
Si toi aussi, tu t'énerves au volant de ton tracteur, appelle-nous au 07 51 53 17 27.
Une émission de TV Agri en partenariat avec l'association Co-Farming et nos partenaires de toujours, la Banque Populaire, le groupe Agrica et le constructeur Lemken, des partenaires qui n'ont pas peur de rien, ou qui n'ont peur de rien plutôt, en nous soutenant. Alors cette semaine, une émission spéciale, une émission même je dirais très spéciale, puisque les tontons farmeurs sont montés ici à la capitale. Pourquoi ? Pourquoi ils sont montés à la capitale ? Ben, tout simplement pour défendre 22 idées qui peuvent aider l'agriculture française à progresser plus vite. Et c'est vous qui allez choisir celles qui sont les plus pertinentes afin que nos tontons, avec leur petite sacoche et le flingue dans la poche, puissent aller jusqu'à l'Assemblée nationale porter et défendre ces idées. Alors, une émission très spéciale aussi, car elle est enregistrée en public devant une salle comble. On se croirait au Stade de France. Incroyable, mais comment ils ont fait pour venir ici en pleine situation? D'ailleurs, on ne va pas vous montrer la salle comble parce qu'on n'est pas sûr de respecter, enfin si, on les respecte, mais tout juste, les distanciations. Et effectivement, je remercie Agridé et particulièrement Marie-Laure Eustache. Bonjour Marie-Laure. Et c'est pas mal de parler en le micro aussi en même temps.
C'est encore mieux. J'ai un peu peur des micros en ce moment. C'est
d'accord.
Ça.
Et puis Jean-Baptiste Millard, donc, de nous accueillir dans ce super amphi qui est rempli, qui est plein. Et à nouveau, donc, le public est là. Et on entend le public, d'ailleurs, à nouveau applaudir très, très fort. Voilà. On les remercie. Il y a juste à peine besoin de les solliciter. Alors, cette semaine, ce n'est pas un, ce n'est pas deux, mais bien trois tontons farmeurs qui sont montés à Paris, comme on dit en province. Alors, honneur aux dames avec Gabriel Dufour. Gabriel Dufour de Data Farm, c'est bien ça?
Oui, tout à fait.
Notre transfuge, notre ex-écolo angoissé qui a changé d'avis sur le monde agricole en allant justement à la rencontre du monde agricole. Mais Gabriel, ça a l'air évident, tous les écolos devraient faire la même chose.
Oui, je ne suis pas une ex-écolo, je suis toujours écolo.
Ah mince, bon alors ok. Oui. Mais par contre, à la rencontre du monde agricole.
Absolument.
Grâce à Richard.
Voilà, je suis la preuve qu'on peut faire les deux.
Bon, très bien. Et puis, il aime les pâtes et il sait qu'il a intérêt de les aimer. J'ai cité Jean-Baptiste Vervy, président de l'association Co-Farming, notre petit céréalier de la Marne. Et pourquoi Jean-Baptiste, tu vas devoir aimer les pâtes?
Ah ben, pardon, parce que je vais me lancer avec ma compagne à faire des pâtes et on vient de lancer la marque Papote.
Voilà, Papote, vous allez voir, vous allez pouvoir découvrir, c'est vraiment sympa. Et enfin, c'est le migrant de l'équipe, il a quitté sa ferme dans son sud-ouest natal pour faire une brillante carrière dans les chiffres en région lyonnaise et il n'a pas hésité à venir braver le virus à Paris. Je vous demande d'applaudir Anaël Bibard de FarmLib.
Bonjour à tous.
Ah, vous avez oublié les applaudissements, merci.
Ah ben oui, c'est un mode battle hein, aujourd'hui.
D'accord, ok. Et alors Jean-Baptiste, il faut expliquer sûrement ce que c'est le mode battle.
Alors la battle, en fait, c'est l'idée de défendre nos idées et du coup, en fait, entre co-farmers, on va du coup, on aura chacun notre idée et on va s'affronter et on va voter sur l'idée qui est la plus pertinente. Ces idées, c'est les 22 idées qu'on a présentées sur les 12 dernières émissions de Tonton Farmer. Et donc c'est une petite étape pour justement valider tout le travail qu'on a fait. Et puis c'est aussi pour préparer, comme tu le disais tout à l'heure, une rencontre à l'Assemblée nationale, puisque l'idée c'est d'amener nos idées jusque les députés qui étaient présents dans chaque émission, députés et sénateurs, et voir si justement ils ont envie de les reprendre. Alors nous on se marre, on balance des idées, mais il y a quand même du fond, et donc on a envie au moins pour certaines, elles aillent jusqu'au bout, quoi.
Puis il y a des bonnes idées parce que au final, dans les émissions, elles ont été acceptées quasiment toutes par les députés. C'est-à-dire qu'ils ont dit, attention, on va les porter, nous, derrière les... Donc il faut aller les revoir pour qu'ils les portent.
Ah oui, parce que c'était facile de le dire à l'émission. Ils se sont peut-être dit qu'il n'y avait personne qui écoutait, mais il y a au moins nous qui avons écouté. On s'est dit, les gars, vous avez dit oui, donc on va venir vous les représenter à l'Assemblée nationale.
Chose promise, chose due, ils sont à Paris pour justement vous permettre de sélectionner ces idées. Et comment on peut faire pour sélectionner les idées? Comment on peut voter?
Ah bah oui, c'est vrai ça, comment on peut voter. Donc
alors
là...
c'est Paula qui a travaillé pendant toute la semaine sur le système de vote, et je vois que le président de l'association CoFarming n'est pas du tout au courant, donc ça fait plaisir. Donc je vais l'expliquer parce que moi je suis au courant. C'est très simple, il y a un YouTube, il y a un chat, et sur le chat il suffit de voter en mettant le prénom du co-farmer qui va défendre l'idée. Voilà. Donc c'est très simple, il faut réagir vite parce qu'on ne va pas attendre 8 jours non plus la réponse. Donc il faut écouter, comprendre et voter. 3 mots importants dans la période actuelle. Écouter, comprendre et voter. Alors, la première battle, elle oppose Gabriel Dufour. Gabriel, en forme, bien chaud.
Impeccable.
Bon. Et puis, Jean-Baptiste Vervy. Donc, sur 2 idées, on va, honneur aux dames, demander à Gabriel de présenter son idée. Attention, Gabriel, il y a 1 minute. 1 minute et c'est fini.
OK. Donc, on a tous déjà eu dans nos expériences de consommateurs l'achat d'un produit soi-disant made in France, qui était en fait un assemblage en France de produits venant de l'étranger. Alors, comment éviter ce made in France washing ainsi que la distorsion de concurrence qui handicape nos agriculteurs ? Alors, aujourd'hui en France, plusieurs labels existent pour valoriser l'origine et la transformation des produits, tels que l'IGP, l'AOP ou l'AOC, mais aucun ne valorise les travailleurs locaux et notamment le producteur. Alors, l'idée d'un label produit et transformé en France consiste à créer un label de consommation qui tient compte de l'aspect local pour valoriser ce qui est produit et préparé en France par des travailleurs locaux avec un prix ajusté et donc juste pour les agriculteurs. Ça donne le pouvoir au consommateur par son acte d'achat de soutenir ses agriculteurs français.
Une bonne idée. Maintenant, face à elle, Jean-Baptiste Vervier et ses gros muscles.
Ouais, bon, c'était pas mal. Hein, c'était pas mal. Je dois reconnaître. Mais attention, moi j'y vais. Attention, moi mon idée. Réformer ou proposer le statut d'auto-entrepreneur pour les salariés agricoles. Alors pourquoi ? En fait, c'est l'idée de permettre à des saisonniers de passer sur un statut plutôt... Ah bah tiens, il y a Big Ben qui arrive.
Non, c'est pas vrai, je plaisantais, c'est pas fini.
Bon alors, je recommence. Mon idée, c'est de défendre, d'amener en fait à l'agriculture le statut d'auto-entrepreneur pour les salariés. L'idée étant d'amener en fait ces travailleurs courageux, de les amener sur un statut plus, on va dire, professionnel, et ça permettrait en fait à un agriculteur qui l'embauche d'avoir en face de lui quelqu'un qui est un peu patron, donc déjà qui a un autre peut-être implication dans son travail, et comme il a un statut d'auto-entrepreneur, il n'y a plus les charges patronales, et bien en le payant tout aussi cher, l'agriculteur pourrait augmenter le tarif horaire de ce fameux saisonnier. Et donc, ce gars courageux essayait d'être payé plus cher. Et ça, c'est un dispositif qui existe beaucoup dans la restauration, dans les travaux saisonniers dans la restauration. Et donc, on pourrait l'amener à l'agriculture. Et ça serait peut-être une réponse pour permettre à ce qu'il y ait plus de saisonniers qui travaillent, saisonniers français qui travaillent, sur la récolte de nos productions françaises.
Non, vraiment, le Stade de France est avec vous pour les deux. Moi, je serais bien embêté si j'étais vous, le public, à devoir voter actuellement, parce que c'est vraiment compliqué. Dans tous les cas, il faut voter pour l'un ou pour l'autre. Donc, il faut marquer Jean-Baptiste ou Gabriel. Alors, vous allez avoir le temps des 3 prochaines battles pour voter, mais comme il va falloir voter pour les autres, n'hésitez pas à voter dès à présent. Battle numéro 2, donc Anaël Bibard à ma droite et à ma gauche encore Jean-Baptiste.
Non, mais c'est pas trop. Ah, je suis chaud là.
Anaël, pour que Jean-Baptiste reprenne son souffle. Souffle.
Ah, il va souffrir, ouais, ça a raison. Alors, le problème aujourd'hui, en France, on a fait le choix du béton et de la forêt, au détriment de la production pour nourrir les Français. En 40 ans, on a perdu des millions d'hectares de terres agricoles et sur la même période, la forêt a progressé de 3 millions d'hectares. La solution, elle combine lutte contre le réchauffement climatique, production de nourriture, et cette solution, c'est d'accepter de lever les contraintes administratives ubuesques qui pèsent sur les agriculteurs pour défricher et convertir des forêts en parcelles d'agroforesterie. L'agroforesterie, c'est le fait de planter des rangées d'arbres adaptées au sol, espacées entre elles juste ce qu'il faut pour pouvoir cultiver des productions alimentaires entre elles. Donc c'est le top pour produire plus de biomasse, stocker plus de CO2 dans le sol et produire des matériaux de construction biosourcés en plus de la nourriture. Donc il faut qu'on accepte de couper des arbres pour pouvoir en replanter et sauver notre souveraineté alimentaire et le climat.
Moi je serais Julien Normandie, moi je signerai de suite, j'embaucherai Anaël Bivard, Julien Normandie qu'on invite à chaque émission et qui ne vient jamais bien sûr au Tonton Farmer, mais on ne désespère pas face à lui pour cette seconde battle, donc Jean-Baptiste Vervy. Jean-Baptiste, 1 minute.
Ouais, je dois reconnaître que ça envoie du bout à ta proposition.
Jean-Baptiste.
Alors moi attention, et en plus je porte une proposition d'un autre Tonton Farmer. qui s'appelle Michael Jacquemin. Et c'est l'idée, en fait, de faciliter les échanges de parcelles. Alors, Michael, il a sorti une plateforme qui sert à rapprocher, en fait, les gens qui ont besoin d'échanger ces parcelles. Eh bien, l'idée, c'est d'aller plus loin et de proposer carrément au ministère de l'Agriculture d'être proactif pour permettre aux agriculteurs justement de remembrer en fait leurs parcelles. Et comme on le sait, quand on a une parcelle plus à proximité, ben on la surveille mieux, on la cultive mieux, on peut faire des productions à valeur ajoutée. Et du coup, de se saisir finalement du dispositif d'algorithme qui existe pour justement, ben, ils ont un fichier, hein, le ministère de l'Agriculture, et bien ils pourraient proposer, suggérer, de toute façon ils ne feront plus jamais de remembrement, donc proposer, suggérer en fait via du numérique de rapprocher ces parcelles et de redonner de la compétitivité aux exploitations. Plutôt que de mettre des charges, ils peuvent proposer de la compétitivité. C'est quand même chouette, ça.
Et ça tombe bien, c'est fini. Alors, Paula est en train de comptabiliser. Je vois qu'elle a plein de tableaux Excel en même temps. Ça va, on va s'en sortir quand même, Paula, sur les chiffres. Donc, je rappelle qu'il faut indiquer d'un côté Anaëlle, si vous pensez que c'est Anaëlle qui est le meilleur. Sinon, c'est Jean-Baptiste, ou plutôt leurs idées. On va attaquer la battle numéro 3 avec Jean-Baptiste et Gabriel. On démarre par Gabriel à nouveau.
Alors, cette fois, je vais vous parler des produits locaux. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il est important de produire en France localement une partie de l'alimentation d'un département ou d'une région. Ce n'est pas moi, fondatrice et présidente d'une AMAP parisienne, qui vous dira le contraire. Avec 50 familles, nous avons fait le choix de nous engager pour des producteurs locaux. Mais au-delà de ces initiatives isolées, d'associations comme des AMAP ou des professionnels, l'idée d'inciter les collectivités locales, les communautés de communes, les départements et même les régions à promouvoir ces initiatives locales auprès du grand public et à aider les agriculteurs à se faire connaître et à vendre. Par de la visibilité, de la publicité locale, la création, pourquoi pas, d'un label, d'une marque de territoire, par exemple. Ce matin, j'entendais des initiatives comme Produits locaux Creuse ou Agri-local, que je salue, et ils ont besoin de visibilité, donc je fais un appel aux collectivités locales. Donc il y a un effort à fournir pour ces collectivités, pour accompagner les agriculteurs sur leur notoriété, les aider à promouvoir et à vendre leurs produits localement. Et en plus, ça va permettre d'acquérir une connaissances en marketing aux agriculteurs et de recréer du lien avec les consommateurs.
Gabriel, j'achète. C'est pas pour vous influencer, mais face à vous, vous avez quand même le poids lourd de la Marne, celui qui fait peur à plus d'une, Jean-Baptiste Vervy.
Bah pourquoi une? Au passage, j'ai des pâtes à vendre dans ton AMAP, donc je fais une petite pub. Alors moi, l'idée que je défends, c'est de créer un incubateur justement pour tous les agriculteurs qui font des projets. Alors moi, j'ai un pied dans le monde des startups et je vois le pognon qu'on met en fait, hein, les régions pour aider les startups qui ont des idées, parfois, il y a des idées qui tombent à l'eau, mais dans les incubateurs, il y a souvent une bonne dynamique pour accompagner en ouverture d'esprit, tout ça. Et d'un autre côté, je vois les agriculteurs qui se lancent dans des projets, alors de circuit court, et des fois, bah, l'approche marketing, elle n'est pas poussée à fond, l'organisation du travail est un sujet, les gens veulent consommer local, mais la logistique qui est derrière, c'est souvent un boulet en fait, pour les agriculteurs, et ça freine la productivité, on va dire, de ces producteurs en circuit court. Donc l'idée, c'est de faire un mix, et j'invite les régions en fait à se lancer sur le truc, de se dire on fait un incubateur avec la même énergie qu'on met dans les startups pour les producteurs qui se lancent dans les produits fermiers, de telle sorte à aller plus loin dans leur projet, dans la com, dans l'image, dans l'organisation, dans la valorisation et dans des solutions innovantes sur la logistique pour toucher des gens comme toi qui sont en ville.
L'idée est lancée, donc deux idées, il faut voter Jean-Baptiste ou Gabriel pour cette battle numéro 3. On va attaquer la dernière battle de cette première série avec Anaëlle Bibard à nouveau et Jean-Baptiste Vervy face à lui qui est chaud.
Je suis fatigué en fait.
Même fatigué, donc Anaëlle, ça va être facile.
Allez, ben moi je défends l'idée de Johan d'Agri-Échange, c'est le côté upgrade de vieux matériel. Moi, je suis ancien conseiller de gestion, j'en ai vu passer des optimisations fiscales avec, on va faire un peu d'amorte, de la DPI, de l'amorte max, et boum, la MSA et les impôts.
T'essayes d'influencer le jury, là, déjà.
Le sport favori des agriculteurs.
Résultat, on a renouvelé du matériel en dépit du bon sens. Le syndrome de la biche, hein, en gros, hein, dans les fermes. C'est trop tentant, hein. Avec des subventions, tu renouvelles le matériel, il ne coûte quasiment rien, et les suramortissements Macron ont encore poussé dans cette direction-là. La proposition qu'on fait, c'est intégrer l'upgrade de matériel d'occasion
dans ces dispositifs de subvention aux investissements innovants. C'est-à-dire que je renouvelle un vieux semoir. Non, je l'améliore. Il devient semoir direct sous couvert végétal. Je vais essayer de ne pas l'écorcher. Et comme ça, on peut préserver le climat, ne pas investir en dépit du bon sens et ne pas trop charger la ferme en annuités.
Mais Annaëlle, tu es en plein dans l'actu, là, parce qu'il y a le plan de relance et actuellement, dans les bureaux du ministère et de la profession, est en discussion l'idée de dire que les 400 millions, je ne sais pas quoi, 150 millions d'investissements qui vont être un peu sponsorisés par ce plan de relance portent sur du neuf. Or, c'est idiot, il faut faire vivre le matériel plus longtemps.
Il faut le faire vivre plus longtemps, l'améliorer et il servira à la même chose et le même résultat.
Ouais, donc, je soutiens la proposition déjà. Marie-Laure aussi.
Et pas créer l'endettement, parce que ça crée l'endettement bêtement. Ouais.
Jean-Baptiste, ouais. Tu veux concourir quand même ou t'as perdu?
Non, mais
t'as perdu,
oui.
T'as perdu là.
Non, parce que je concours avec lui contre moi en fait.
Ok.
Bon, alors moi j'ai une autre proposition. Alors accroche-toi bien, mon petit pote. C'est de se dire, justement, il y a du matos dans les fermes. Hein. Il y en a partout, plein les hangars et tout le tralala. Et en fait, il y a aussi de moins en moins de bras. Et puis une évolution en fait de la gestion des entreprises. Et donc l'idée c'est de développer aussi les entreprises agricoles et d'encourager en fait les agriculteurs à passer au statut d'entreprise agricole pour valoriser leur matériel, mais bien évidemment le valoriser avec les bons coûts de prestation. Parce que ça, c'est important pour que les agriculteurs rentabilisent leur investissement. Et puis, qu'on arrive à bien valoriser le parc matériel par des gens qui se mettent à passer au stade de l'OPA.
D'accord, ça fait...
De l'ETA, pardon, de l'ETA. Oh ouais, c'est bon, le troisième verre, moi, déjà.
Hein. L'OPA. Non, oui, parce qu'il faut dire qu'on est en train de boire des produits de la viticulture, parce qu'on pense aider, justement, les viticulteurs et les vignerons. On boit quoi, d'ailleurs?
Alors, là, je vais te resservir un petit vin de lune de la maison Jean-Luc Baldès. Eh bien, c'est pas mal du tout, c'est un petit Malbec. Polar, ouais, c'est pas mal.
Merci.
Allez, hop, un petit canon, okay. Pof. Et on avait commencé par un grave que j'ai retrouvé dans le fond de la cave de 2003. C'est pas si mal.
Et un bon saucisson, rien de mieux pour faire une bonne émission Tonton Farming. Et j'accueille Paula juste à mes côtés. Alors Paula, c'est elle qui a tout organisé, il faut le dire. Hein. C'est elle qui a bossé et c'est elle qui fait les calculs. Bon, Paula, tu as encore quelques minutes, mais déjà, ça se goupille bien. Il faut prendre le micro aussi, Paula, pour dire oui.
Bonjour. oui, ça se goupille bien. Vous êtes assez actifs sur YouTube. Donc, merci encore. On attend vos idées.
Bon, voilà. Paula qui travaille pour l'association CoFarming. Et maintenant, Marie-Laure, c'est ton tour. Il faut prendre le micro et puis on t'écoute religieusement.
Oh là là, quelle pression, hein. Moi, c'est moi qui vous écoute. Ils sont super bons et excellents, Gabriel et tout. Non, c'est un plaisir de vous écouter. Bienvenue à Agridé, le think tank de l'entreprise agricole. Donc, on est ravis, on adore les startups à Agridé. La preuve, on vous soigne. Hein. C'est du saucisson qui n'est pas du tout in vitro cellulaire. Hein. Je dis ça parce qu'on sort bientôt une note sur le flexitarisme. Je fais un petit peu de pub aussi pour nos travaux. Agridé, effectivement, on aime les startups. On les accueille en tant qu'adhérentes. Elles bénéficient ici de services de co-farming, de en contact, on les chouchoute. Donc voilà, c'est aussi un petit message à la constellation des start-up agri. On a publié une note sur la transition numérique, donc on s'intéresse aussi à la révolution digitale dans vos métiers depuis un petit moment. Hein. Ma collègue Marie-Cécile Dama anime des groupes de travail sur ces sujets, toujours d'actualité. Et puis Jean-Paul, hein, voilà, souvenir, je ne sais pas si Paula a quelques photos, en 2016, en février, on avait accueilli CoFarming qui naissait à cette époque. On parlait de plateformisation.
Et vous étiez les premiers à nous donner la parole et je tiens à le souligner.
Et c'était un grand plaisir, Jean-Paul, et un honneur de vous avoir parce que voilà, c'était le grand début de cette nouvelle intelligence, en fait, ce nouveau bon sens qui arrivait dans l'agriculture et pourquoi pas mettre les gens en contact à travers ces outils-là en utilisant un petit peu mieux tout ce qui est à notre disposition. C'était vraiment les prémices et nous, on y croyait beaucoup et ça a fait son chemin depuis. Hein, la preuve.
C'était l'époque où Agridé s'appelait encore la SAF Agridé.
Exact.
On le voit sur la photo.
Oui, on a coupé le petit SAF hein, et maintenant on est le think tank Agridé, mais toujours dans l'état d'esprit SAF, créé en 1867, un des premiers think tanks dans le monde.
Il y avait avec Pasteur, je crois, non?
Et il y avait Louis Pasteur à notre conseil d'administration. Bravo, Jean-Paul.
En plein dans l'actualité encore. Marie-Laure, encore
quelques minutes pour vous dire qu'est-ce que je peux vous dire. Bah, écoutez, non, on a plein de choses. Allez sur le site d'Agridé, sur notre compte Twitter, suivez-nous. Et puis voilà, je rappelle aux startups qu'elles sont les bienvenues ici. Vraiment, on vous chouchoute et on est au cœur de Paris, vous l'avez constaté, 8 rue d'Athènes, à côté de la gare Saint-Lazare, des bureaux à disposition, un bel amphithéâtre, etc. Et merci encore de nous avoir invités. Moi, j'ai participé à l'émission sur les femmes dans l'agriculture avec Christiane Lambert et c'était un plaisir aussi et c'est très très sérieux ce que vous proposez. Bravo pour votre book parce qu'il y a vraiment des choses de fond. Je vous écoute attentivement, il faut vraiment aller au bout de la démarche. Bravo.
Merci, j'ai deux choses à expliquer à Jean-Baptiste, qu'on est en train de faire une émission de télévision et qu'on passe pas devant les caméras même pour servir du vin, et puis deux, quand je regarde la photo je me dis que j'ai un peu maigri depuis, donc je suis sur la bonne tendance. Voilà.
Toi aussi, si tu t'énerves au volant de ton tracteur, appelle-nous au 07 51 53 17 27.
Merci Marie-Laure, on attaque la battle numéro 5, mais avant, bien sûr, on va voir les résultats du côté de Paula pour la première série des 4 premières battles. Paula, les calculs ont été compliqués.
Ah oui, il y avait beaucoup de votes. Bon, désolé Jean-Baptiste, mais t'as gagné aucune de tes battles.
Oh va falloir pourtant, te réveiller un petit peu. Il avait insisté à être sur chacune, en plus.
Du coup, on remportait cette première série, la première proposition de Gabriel avec le label Produit et Transformé. Ah,
mais parce que c'est Gabriel, ça.
Ensuite,
on applaudit le public.
Anaël avec Lever les contraintes de défrichage des forêts. De nouveau Gabriel avec sa proposition de aider à promouvoir et vendre les produits des agriculteurs locaux et subventionner l'upgrading du matériel.
En même temps, il avait aussi voté pour ça.
J'ai défendu à moitié l'idée d'Anaël à la fin, donc ça va.
Bon, c'est pas fameux, hein.
Oui, bah, je vais me rattraper, il y a un deuxième round.
Bon, alors Jean-Baptiste à nouveau pour la battle numéro 5 face à Naël. Alors, on espère que ça va être un petit peu mieux cadré. Effectivement, donc top départ pour Jean-Baptiste.
Ah, c'est moi, bah, laisse tomber. Là, tu peux remballer, c'est parti. Là, je suis chaud.
Avec
là.
La hargne.
Alors, oui, alors, j'ai de dire, j'ai la hargne. Parce que y a des gens qui nous disent il faut arrêter de mettre des phytos sur les parcelles. Alors, moi, je veux bien l'entendre, effectivement. Et d'ailleurs, on a envie de moins mettre de phytos parce qu'on ne l'en met pas pour le plaisir. Mais par contre, c'est vrai que quand on met moins de phytos, bah, on peut prendre des risques et puis on peut avoir des impacts sur le rendement. Alors, du coup, l'idée, elle est très simple, c'est de se dire eh bien, puisque la société veut qu'on fasse un effort, en fait, sur nos pratiques agricoles, et ça s'entend très bien, parce qu'on est aussi des consommateurs, à ce moment-là, eh bien, on va mettre en place une assurance pour gérer justement bah, les écarts de production qui peuvent arriver du fait d'avoir des impasses techniques, d'avoir des absences de produits de protection des cultures, par exemple comme sur la betterave. Et de se dire là, eh ben voilà, c'est l'assurance qui va nous compenser en fait ben cette année où il y avait une charge une pression maladie forte, eh bien on a baissé en rendement, eh bien l'assurance va se déclencher et nous garantir une régularité de revenus et nous mettre en sécurité par rapport à cette prise de risque que l'on fait sans ces protections phytosanitaires.
S'il vous plaît, votez pour lui. Pensez à ceux qui rentrent en voiture avec lui tout à l'heure. S'il ne gagne pas une battle, il va être infernal dans la voiture. Donc pensez à lui. Et puis en plus, ça, c'est le moment ou jamais, parce que c'est une bonne idée. Et je crois que c'est une idée qui commence à faire son chemin. D'après ce que je crois savoir, il y a des assureurs qui ont rebondi et qui travaillent justement cette idée qu'on aura dans 10 ans.
Mais carrément, c'est une bonne idée. Il faut voter, quoi.
Face à Jean-Baptiste, Anaël Bibard.
Bon, ça y est, il est chaud, donc il va falloir relever le niveau. En France, les coopératives, elles ont été pensées à l'origine pour aider la commercialisation des productions agricoles. C'est cet état d'esprit qu'il faut essayer de maintenir, avec notamment en trouvant des solutions pour aider les territoires, pour faciliter des structures ad hoc administratives pour porter des contrats de filière locales simplifiés. Un exemple, l'association Les Producteurs dans l'Est lyonnais, les Robins des Champs, ils produisent du blé qui va être transformé par un moulin local et qui produit une baguette qui, je vous garantis, elle n'a pas la même saveur parce qu'on sait qui l'a produit, on sait que c'est du territoire, on connaît les gars, ils viennent à votre rencontre et on a quelque chose qui a vraiment quelque chose d'un plus. Mais pour eux, l'association, ce n'est pas forcément l'idéal. Il faudrait pouvoir sécuriser ces contrats de filière locale avec la coop, la collecte, le meunier et jusqu'au boulanger pour pouvoir vraiment porter quelque chose de territorial, non délocalisable et vraiment top.
Le problème, c'est que Jean-Baptiste n'est pas sûr de gagner, là, parce qu'elle est bonne, son idée aussi.
Ouais, en plus, je voterais presque pour lui, quoi.
Elle est pas mauvaise. Bon, il faut que vous votiez, donc, Paula, il faut compter un peu tout ça. Battle numéro 6. Alors là, on a embauché les meilleurs techniciens du monde. Ils coûtent cher, ils sont performants, et on va tenter une prouesse technique, c'est-à-dire de faire un lien par téléphone avec Henri de Richecourt. Henri, est-ce que vous m'entendez ?
Je suis là, je vous entends.
Non, on applaudit Adrien et Hugo, on les applaudit. Donc Henri de Richecourt, donc de Neavy, face à Jean-Baptiste Vervi encore.
Accroche-toi, mon vieux Henri, c'est bon là, je suis chaud. Là.
Donc Henri, une minute.
J'avais une longueur d'avance.
Henri, une minute, pas une seconde de plus pour défendre votre idée.
C'est parti. Ben, le constat est simple, les épisodes exceptionnels se succèdent pour les agriculteurs, d'une part, d'un point de vue météo, l'année 2020 est encore un excellent exemple, et les contraintes de différents ordres, qu'elles soient réglementaires ou administratives, également se succèdent. Pour gérer ces changements et moderniser ces exploitations et adapter les exploitations, les agriculteurs disposent des ressources des instituts qui développent tout un tas de pratiques très intéressantes. Mais ceux qui, in fine, savent ce qui se passe dans leurs exploitations, ceux qui font des essais, ceux qui mettent en œuvre, ce sont les agriculteurs eux-mêmes. Et ces idées, il faut les valoriser. Donc la proposition, elle est de récompenser ce partage de savoir qui aujourd'hui peut se faire soit dans les plateformes, il y a des outils comme cela, soit les plateformes pour les récompenser, les rémunérer, soit au travers de réductions de certaines contributions que doivent payer les agriculteurs. Donc voilà, l'idée est très simplement récompenser ceux qui mettent en œuvre des pratiques qui font avancer l'agriculture.
Merci.
Ça, c'est une bonne idée. Jean-Baptiste ne peut pas lutter.
Voilà, et qui va faire plaisir aux instituts qui vont devoir partager les contributions volontaires les CEO, obligatoires.
Ouais. C'est retenu. Et je vote aussi pour sa contribution parce qu'elle est bonne.
Non, mais Jean-Baptiste, il faut que tu défendes la question.
Ah oui, pardon, excusez-moi. Donc, alors, attends, moi, j'en ai une autre aussi. Alors, attention. L'idée, c'est de remembrer tous les systèmes un peu d'assurance pour protéger les exploitations. Alors, on est un peu sur celle qui est avant, mais un petit peu plus large. En fait, on a de l'assurance récolte, on a des fonds calamité, on a des fonds un peu dans tous les sens pour se protéger en cas de coup dur. Alors, l'assurance récolte, il n'y a qu'un agriculteur sur 5 ou sur 4 qui s'assure. Les calamités, dès que tu as dépensé 10 000 euros, bah, tu n'as plus le droit aux calamités. Enfin bref, tu es en fragilité. Et on sait que, bah, tant sur les phytos que sur l'aspect climatique, on peut avoir de la variabilité forte et sur le marché aussi. Donc, l'idée, c'est de simplifier tout ça et c'est de se dire, on va faire juste un truc. Un gros portefeuille, voilà, un gros portefeuille de sécurité qu'on va pouvoir activer sur un dispositif aussi simple peut-être que les DPA, c'est-à-dire à un moment donné on a des critères et on l'active. Et puis l'argent qu'on a mis de côté est un maximum défiscalisé, mais on mutualise tout quoi. L'assurance récolte, les calamités, tous les dispositifs, et on y rajoute des contributions des régions ou des consommateurs, pourquoi pas, à la rigueur, pour justement prendre en compte aussi cet aspect sanitaire ou sur les modes de production. Et du coup, ça veut dire que l'agriculture qui est soumise à beaucoup de variabilité sur plein de sujets, elle pourrait être protégée. Et l'idée de cette idée, dans cette idée, le fond de cette idée, c'est de protéger tous les agriculteurs. Oui, ben c'est le troisième verre. Tous les agriculteurs. Voilà.
Bon, je pense qu'il ne va pas finir. Donc, pour voter pour cette battle, Henri face à Jean-Baptiste, battle numéro 6, n'hésitez pas, bien sûr, à voter le plus rapidement possible, parce que là, on va entendre Anaëlle, qui a une idée qui est totalement folle. Je ne sais pas comment... D'ailleurs, ce n'est pas une idée d'Anaëlle, c'est à la base. Il va falloir la défendre, ce n'est pas facile. Face à Jean-Baptiste, qui essaie de récupérer un petit peu. Il est sous oxygène, là, d'ailleurs.
Là, c'est un peu Rocky contre Apollo Creed. Je suis toujours face à JB. On est dans un pays qui a fait des choix courageux en matière de protection sociale des travailleurs. En faisant supporter le coût de cette protection sur les travailleurs et employeurs, en toute logique, malheureusement, ça a créé quelques disparités avec d'autres pays. Donc, pour rattraper ces effets négatifs, des effets de bord au niveau compétitivité, on a exonéré des charges sociales sur les employeurs des emplois saisonniers. Bah, du coup, ça recrée un deuxième petit effet de bord qui est qu'on n'emploie pas en CDI, un vrai contrat dans la durée, ces gars-là. Et du coup, ça crée un écart de coût tellement insupportable que finalement, on reste dans des saisonniers. Bah, autant finir le boulot, hein, les gars. On prend plus de pincettes, on applique le même remède aux saisonniers et aux salariés à temps plein, et go, on les embauche en CDI, quoi, avec l'exonération de charges.
Face à lui, notre poids lourd de la Marne, Jean-Baptiste Vervy. Épuisé.
Attends, je retrouve plus la ligne.
Améliorer le service.
Oui, oui, c'est bon. Bon, alors, moi, mon idée, hein, c'est de... Vous savez, les agriculteurs, en fait, ils sont... il peut y avoir des événements, des maladies et puis des problèmes techniques sur les entreprises ou des casses matérielles. Et en fait, l'idée, elle est très, très simple. C'est de gérer, finalement, un système de prévoyance à ce que la ferme tourne toujours, même s'il y a un problème de maladie ou un problème matériel, en fait, en s'appuyant sur les outils numériques et puis, quelque part, en digitalisant tous les principes de services de remplacement, voire même, je dirais même, cercle d'échange. Et peut-être ressortir, en fait, des placards, les cercles d'échange en les modernisant. Et ça, c'est vachement bon parce que, avec une vue d'aigle sur un territoire, quand on connecte toutes les hangars, tout le matériel qu'il y a, les disponibilités des uns et des autres, quand il y a un agriculteur qui a un problème, sa machine, son moteur vient de casser, ou là, par exemple, là, il pleut, c'est compliqué, et bien se dire, allez, on va faire un coup de boost, on va semer chez quelqu'un, c'est disponible, et on ira semer chez quelqu'un quand la météo ira mieux, et bien c'est quand même vachement sécurisant sur la vie de l'entreprise, et surtout, c'est de la compétitivité. Donc, c'est redigitaliser ces niveaux de cercle d'échange en s'appuyant sur les plateformes qui existent. Au passage, mission.wizyfarm peut répondre très bien à cette... problématique.
Charité bien ordonnée commence par soi-même, a dit Jean-Baptiste. Et je rappellerai pour contrebalancer qu'il y a un cercle d'échange qui fonctionne bien en France, c'est le cercle de l'heure. Et
ouais,
je salue Pascal Allard.
Oui, tout à fait. Et c'est un exemple, en fait. Et d'ailleurs, alors ça me permet de rajouter que du coup, en fait, c'est cet exemple où pour 1 euro par jour de cotisation à ce cercle d'échange, on sécurise son entreprise, quoi. C'est mieux que pas mal d'autres assurances qu'on pourrait avoir. Et ça, ça devrait être sur tous les territoires de France. Après, pour que ça se passe bien, un petit point de digital, ça serait pas mal.
Et puis, Agri-Échange, il y a Agri-Échange, exactement. Garde les meilleurs pour la fin. Agri-Échange, il faut expliquer un peu.
Alors, Agri-Échange, eh ben, on est sur ce système-là, justement, avec une particularité. Donc, c'est l'idée de travailler l'un chez l'autre sans sortir d'argent. Donc, je vais travailler chez quelqu'un, je vais faire la moisson chez quelqu'un, et du coup, la personne qui est en face est redevable, et va faire un autre travail dans la communauté des gens qui sont habitués à travailler ensemble. Donc, c'est une forme de CUMA, de cercle d'échange, digitalisé avec le côté innovant, c'est pas de sortie d'argent, et dans ce contexte, c'est quand même vachement intéressant.
Battle numéro 7, Jean-Baptiste Vervy face à Naël Bibard. Il ne vous reste plus qu'à voter. Et pendant ce temps, on attaque la battle numéro 8 qui oppose Gabriel face à Jean-Baptiste.
Alors Jean-Baptiste, je suis vraiment désolée parce que là, moi, j'ai la mesure qui déchire tout. C'est la mesure qui va réconcilier tout le monde, les agriculteurs et les écolos, et je sais de quoi je parle, et permettre à l'agriculture d'être une solution, un levier pour la transition écologique. Donc l'agriculture, c'est la seule activité humaine qui permet de séquestrer de manière significative le carbone. Mais séquestrer du carbone, c'est-à-dire pour un agriculteur, faire pousser une haie, une prairie, une culture intermédiaire, tu le sais Jean-Baptiste, ça coûte cher. Donc la solution, c'est que les entreprises achètent aux agriculteurs un crédit carbone en échange d'un service environnemental pour alléger leur propre bilan carbone. Bien sûr, ça ne doit pas être un droit à polluer, mais une mesure parmi d'autres dans la stratégie bas carbone d'une entreprise. L'État doit encourager les grands groupes français à acheter du crédit carbone aux agriculteurs français comme toi, en fléchant ces investissements, parce que replanter une forêt en Thaïlande, c'est bien, mais privilégier une prairie d'un agriculteur normand ou de la Marne, ça a du sens et c'est mieux.
Gabriel, le public qui se réveille, bravo. Alors... J'ai une mauvaise nouvelle, Gabriel. Je pense que Jean-Baptiste a triché parce qu'il dégaine une sacrée idée aussi et qu'il devait être au courant de ton idée.
Ouais, alors juste pour dire, elle est quand même bonne, son idée.
Parce que c'est toi qui l'as défendue.
Mais oui, je ne sais plus. Enfin, je sais pas. Mais non, mais en plus, depuis qu'on a sorti cette idée, il y a Soil Carbon qui est sorti. Et donc des Belges qui payent, en fait. Et je me suis inscrit avec mon exploitation. Et la petite Belge que j'ai au téléphone m'a dit « Oh, mais vous, tout ce que vous faites, vous avez le droit à des crédits carbone. » J'ai dit « Super. » Et en fait, qui rémunèrent les agriculteurs à 27 euros de la tonne tous les ans de carbone que tu as protégé. Donc, on fait un bilan. Tu captes 1 à 2 tonnes à hectare et tu es payé de 27 euros la tonne. Oui, donc, on est dans le système.
Tout à fait. Je précise juste aussi que chez Data Farm, nous faisons ça aussi.
Oh, c'est encore mieux. Je vais m'inscrire aussi.
Je ne vais surtout pas dire du mal des Belges. Et je ne savais pas que Data Farm faisait ça. Mais pourquoi on est si en retard en France là, sur le carbone?
Nous, peut-être qu'on se fait souvent mal au cerveau. On discute beaucoup, mais on ne fait pas assez.
Gabriel, vous le faites ?
Nous proposons, oui, à nos clients de décarboner et de compenser, d'améliorer leur bilan carbone, oui. Bon. Grâce aux agriculteurs méthaniseurs qui, eux, décarbonent le numérique.
Et je salue nos amis belges qui écoutent Power Boost chaque vendredi.
Alors, je défends quand même mon idée.
Oui, quand même, on ne va pas l'oublier. Bon.
Alors, est-ce que Jean-Paul, tu connais C'est qui le patron ? Évidemment, tu connais
bien
tout le monde.
Bien sûr, Nicolas Chaban, on l'a reçu plusieurs fois.
Mais c'est quelqu'un qui est exceptionnel, ce gars-là. Et donc, nous, l'idée, c'est qu'on défend, c'est le patient gourmet à la cantine. C'est-à-dire que tous les discours là, des politiques, il faut produire différemment, blablabla, blablabla, blablabla. Mais les gars, montrez l'exemple, consommer français. Alors, on a démarré sur les cantines, mais il y a plein d'endroits où ça pourrait être le cas. Et de se dire, les gars, dans ces structures qui sont plus ou moins rattachées en fait, au gouvernement ou à des instituts, de se dire, montrez l'exemple. Prenez des bons produits, des produits de proximité, des produits de territoire. Et on va même faire un truc supplémentaire, c'est que les patients qui sont dans l'hôpital, on va noter comme c'est qui le carbon, c'est qui le patron.
Le carbone.
Toi, tu veux vraiment voter pour les
pour la bon, c'est qui le patron ? On va noter sur quels critères ça les intéresse d'avoir de la bonne bouffe dans l'assiette. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire, le gars, il met pas trop d'antibiotiques, il met pas trop de phyto, il prend des vacances, un peu comme c'est qui le patron, hein, sur le lait. C'est des critères très simples. Et du coup, d'impliquer le patient consommateur sur le produit qu'il a et que les hôpitaux, en l'occurrence, les hôpitaux qui mettent 15% du budget sur la bouffe quand même, ils aient en fait un menu, un plat qui soit bon. Parce que franchement, quand on est passé à l'hôpital, on n'est pas au mieux de notre forme et en plus, c'est souvent dégueulasse. Donc l'idée, c'est quand même de se dire, si on a de la bonne bouffe dans son assiette, peut-être qu'on va se retaper plus vite. Et après, on va le décliner aux administrations. Et enfin, ceux qui nous donnent un peu des leçons, qui nous montre l'exemple.
Bon, c'est qui le patron version hôpital ou version d'autres collectivités ? Repartir du consommateur, lui faire choisir ce qu'il veut et le faire payer pour permettre aux producteurs d'en vivre du juste prix, on dirait. Alors, c'est la battle numéro 8. D'un côté Jean-Baptiste, de l'autre côté Gabriel. Il vous faut voter. Et pendant ce temps, Paula va calculer. Pendant ce temps, c'est-à-dire par rapport à ce qui va suivre. Et on va s'intéresser, vous savez, dans l'émission Power Boost, toujours à l'actu de la semaine qui fâche. Et je vais demander à qui, par exemple, à Annel pour démarrer.
Allez, moi, c'est une actu que j'ai trouvée sur les réseaux sociaux. Hein, c'est l'illustration de la cristallisation des signaux faibles qu'on voyait il y a déjà pas mal d'années. Là, on a le Resto U Rabelais à Poitiers, qui est sûrement, franchement, un très bon Resto U, mais qui présente des menus végétariens en partenariat avec l'association L214, une association abolitionniste qui veut interdire l'élevage et réglementer nos vies. Pourquoi ? Pour libérer les étudiants, je cite, du régime carniste qu'ils subissent depuis tant d'années. On nage en plein délire, hein, et sans réaction adéquate, si on se laisse faire, on perdra tous nos éleveurs et notre liberté de manger ce qu'on aime.
On va se faire des amis, Gabriel. Pas d'actu qui fâche. C'est pas marqué sur... On vous a pas prévenu.
Une actu qui fâche, pardon. Oui, alors, plus que... C'est une actu qui m'a plus peinée que fâchée. C'est l'annulation du salon de l'agriculture. Donc nous sommes tous, je pense, ici un peu en deuil de ce salon qui est annulé. C'est quand même le temps fort du monde agricole. C'est aussi le moment où on se rencontre. C'est le moment, moi, l'année dernière, où j'ai rencontré CoFarming, où je vous ai tous rencontrés, où j'ai aussi rencontré les France AgriTwittos, que je salue. Et je suis vraiment désolée. Il va falloir être très créatif pour inventer des choses, des substituts à ce salon de l'agriculture. Peut-être aller au-devant des agriculteurs.
Merci Jean-Baptiste, parce que j'écoute. Ah oui, je voulais dire quelque chose sur le salon, pardon, je reviens là. Et je salue l'équipe du salon, et en particulier sa directrice Valérie Leroy, à qui on pense beaucoup. Voilà. Jean-Baptiste.
Et du coup, là-dessus, ça me permet de rebondir pour dire que, il n'y a plus le salon, c'est vrai que c'est triste, mais il y a des gens qui vont se bouger. Et justement, le co-farming organise son co-farming tour et s'associe avec la grille demain tour.
C'était téléphoné, ça.
Ah ouais, non, c'était pas téléphoné. Mais du coup, ça me permet quand même d'en parler et de se dire qu'il y a des initiatives pour aller dans les campagnes, dans cette période Covid où on ne peut pas se réunir à 40 000 personnes, et bien d'aller dans des petits groupes comme ça et d'aller parler de l'agriculture auprès du grand public, mais aussi auprès des agriculteurs et de parler d'innovation. Voilà. Bon, c'est des petits trucs qu'on est en train de préparer. Normalement, on n'a pas communiqué, mais bon, c'était trop beau, donc je vous en parle.
Là, on peut enfin voter. voter pour JB, quoi.
Ouais, donc là, on ne peut pas voter pour lui.
Alors, après, moi, j'ai mon petit actu qui fâche, non?
Ah ouais, moi, je vais proposer une idée aussi.
Ah oui,
donc, c'est bien ton idée, enfin, l'idée d'assaut pour aller en France, mais moi, je pense qu'il faut penser aussi internationalement. Et il faut créer, en profiter cette année, pour faire un méga événement télévisé avec l'équivalent du prix Nobel de l'agriculture. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher les meilleurs agriculteurs dans le monde, faire une belle soirée, comprendre un peu ce qui fait la différence et ce qui rejoint les différents agriculteurs et créer un prix Nobel de l'agriculture. Et cette semaine, on peut saluer d'ailleurs le fait que Pascal Emmanuel
Chimouquet,
je crois, a été prix Nobel de chimie pour justement la capacité à travailler sur le génome, à modifier le génome avec des outils, différentes enzymes, voilà, CRISPR-Cas9. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au début, elle travaillait en zootechnie et sur les plantes. Mmh. Voilà. Donc c'est parti du domaine agricole pour aller, puisqu'aujourd'hui c'est utilisé en médecine. Jean-Baptiste.
C'est une idée des tontons. Là, le ministre est obligé de venir. Hein.
Il faudrait.
Alors moi, j'ai une petite pensée à une politique qu'on a croisée dans une émission. Ouais, c'est pas de chance, mais je suis retombé un peu sur des flux Twitter et je suis retombé sur qui ? Ah, Sandrine Le Seur. Et vous savez, ouais, on avait fait une proposition puis on s'était pas entendu. Mais moi, je l'aime bien, Sandrine Le Seur. Il n'y a pas de problème avec ça. Sauf que ce qu'elle dit...
Qui est agricultrice en Bretagne.
Ouais, mais sauf que ce qu'elle dit, ça me chagrine un peu. Ça m'irrite. Parce qu'elle dit qu'elle n'a pas voté, en fait, sur la réintroduction des pour les betteraves, en expliquant que, de toute façon, c'est tout. Hein, t'es agriculteur, donc t'es habitué aux aléas. Ouais. Enfin bon, quand tu t'installes, que tu mets 4000 euros de l'hectare, hein, donc 100 hectares, 400 000 boules, tu te les mets sur la tête, tu fais un emprunt et tu te dis « Oui, bah, c'est pas grave, l'avenir, je sais pas ce que c'est, je vais me prendre une volatilité dingue en fait dans la vie. » tu gères une entreprise. Alors je sais pas, ah, c'est un petit peu pas terrible ce que je vais dire, mais enfin, c'est sûr que quand tu as ton salaire de député, ça, c'est pas grave si l'exploitation elle gagne pas sa vie à côté. Hein. Donc je trouve que ce raisonnement, il est quand même un peu limite. Ça raccroche peut-être aux petites propositions que j'ai faites tout à l'heure quand même, d'encadrer, de sécuriser, on va dire, par rapport à des pratiques. Et puis, il y a un autre truc qui me chagrine, parce qu'elle continuait en disant... c'est pas grave, de toute façon, on s'en fout, la betterave, vous l'exportiez, c'est pas grave, vous l'exporterez plus. C'est... Enfin bon, je sais pas, vu la situation, dans la balance commerciale, quand on exporte un petit peu, c'est peut-être pas si mal pour le pays, quoi. Surtout que là, on est en train de bien s'endetter pour les générations futures, donc c'est dommage de casser un peu le truc. Alors je dis pas, hein, d'un point de vue environnement, il faut faire des efforts. Et sur les betteraves, encore une fois, les Belges, chez Greenotech, ils testent des trucs. Chez nous, je sais pas si ça teste fort, mais ils testent des trucs. Des betteraves avec de l'interculture, enfin avec des plantes intermédiaires, avec des févroles en couvert dans les betteraves. Bon, c'est plus ou moins prometteur, mais ils cherchent, quoi. Voilà, on va trouver des trucs. Mais je trouve que c'est caricatural et c'est pas très responsable d'imaginer que voilà, tu t'engages, t'investis dans une entreprise et tu t'en fous de ton revenu, quoi.
Bon, Sandrine, dans tous les cas, on vous invite à participer à une prochaine émission si vous avez encore envie de venir.
Je l'aime beaucoup, Sandrine, moi.
Marie-Laure.
Alors moi, c'est pas vraiment une actu qui fâche. Il y en a plein dans l'actualité. Il y a aussi des actus positives, d'ailleurs. J'écoutais Gabriel sur le carbone. On a fait une conférence il n'y a pas très longtemps lors de notre assemblée générale sur l'entreprise agricole et le défi climatique. Et d'ailleurs, on peut revoir les témoignages d'agriculteurs et d'agricultrices sur notre chaîne YouTube. Non, c'est une petite réaction. J'aurais bien envie d'inviter Dominique Volton, qu'on a reçu il y a quelques jours et qui disait aux agriculteurs d'arrêter d'être sur la défensive dans leur communication. Et moi, je trouve, en vous écoutant, que cette nouvelle génération d'agriculteurs, d'agricultrices que vous incarnez, ben elle est hyper positive et justement dans le dialogue et c'est top, quoi. C'est une nouvelle aussi communication à laquelle j'assiste. Moi, ça fait 12 ans maintenant que je suis dans le métier comme agricole. Je sais pas ce que t'en penses, Jean-Paul, mais je trouve que le ton a changé. Bon, il y a aussi des youtubeurs, des agri-youtubeurs, on les connaît, hein, un peu, Kevin, et voilà, c'est proactif, c'est positif, c'est constructif et c'est très très bien. Donc voilà pour l'actu qui fâche pas.
Mais Marie-Laure, il joue bien un double jeu parce que Anaël a 58 ans et Jean-Baptiste 54. Ah bah donc faut pas du tout, voilà, vin, faut pas du tout croire.
C'est vrai. Que toi, ton lifting, il marche mieux que le mien, quoi.
Donc on a fini la rubrique les actus qui fâchent et on passe juste au résultat. J'espère que Paula a calculé pendant ce temps.
Bon, ça va, t'en as gagné cette fois.
Ah.
Cool.
Suspense.
Alors, vous avez voté pour contractualiser de A à Z avec les filières en circuit court, Danaël. Ensuite, réserve sécurité récolte en cas de coup dur, du chef.
Évidemment.
Améliorer le service de remplacement grâce au numérique et rentabiliser les séquestrations carbone des agriculteurs, ça a beaucoup plu. Bravo. Ça a même fait l'unanimité.
On l'applaudit. On attaque les battles numéro 9, ou dernière la battle numéro 9, et c'est la dernière série des battles. Après, il va falloir qu'on se quitte. Alors, la battle numéro 9, c'est d'un côté Raphaël Jeudi. Raphaël, est-ce qu'on vous entend ou est-ce qu'on t'entend, se connaît bien ? Raphaël.
Tout à fait, Jean-Paul.
Ouais,
bonjour
impeccable.
À vous.
Raphaël, bonjour. Face à toi, Anaël Bibard, bien chaud, bien fort, pertinent. Honneur à Raphaël.
Spontané.
Raphaël, à toi.
Oui, alors,
Raphaël, je te connais, Boursagris.
Le sujet à défendre et prendre en charge l'agriculture au même titre que le pétrole, qui est un vaste sujet. Reprenons d'abord le problème français, on va dire, et le problème de nos agriculteurs. On va dire que c'est le fameux dicton agricole qui se veut le seul métier en fait à être autorisé à vendre à perte. On est face à des cours mondiaux qui provoquent régulièrement des situations déficitaires sur les productions agricoles et qui sont à peine soulagées par des aides PAC, qui font office de pansement et sont des enveloppes qui ne rémunèrent pas la performance selon moi, mais je vais être là pour provoquer. Pour moi, une aide PAC, ça rémunère l'échec français. Si un prix mini était imposé au marché, là je viens provoquer le gouvernement, le projet Egalim, qui pour moi est un beau projet avec des belles étoiles, des beaux papillons dans la tête, mais le projet Egalim, il serait plus projet, mais ça serait une réalité. La réalité, c'est que le pétrole, alors on va pas parler de la France là-dedans parce qu'on est quand même peu impliqué, mais on a une défense quand même sur les prix nationaux. Il y a des pays qui ont été capables au bout d'un moment de se mettre autour de la table, notamment l'OPEP dans les années 60, pour se dire on ne va pas être tributaire des monopoles des compagnies pétrolières, et donc il faut légiférer sur les prix de production et être capable d'imposer des prix. Si on prend l'exemple de l'éleveur, parce qu'on ne parle pas souvent des éleveurs dans ces exports, mais le prix d'un éleveur qui produit du broutard, son besoin c'est d'avoir 1000 euros par bête. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le broutard, ben c'est une bête qui est amenée à être revendue pour de l'engraissement plus tard, souvent sur de l'export,
Raphaël,
notamment
italien. Raphaël, ça fait 33 minutes que tu as commencé.
On a besoin de 1 000 euros par bête pour une bête qui fait 350 kilos. Aujourd'hui, les 1 000 euros, on les a, mais pour 450 kilos, donc on est obligé de produire beaucoup plus longtemps, donc ça coûte plus cher. Et il en revient de même sur la production agricole, on a besoin de 1 000 euros par hectare pour des céréales à paille ou toutes céréales pour pouvoir vivre. Donc on a vraiment un besoin pour l'agriculteur de légiférer sur les prix de marché pour imposer un prix mini pour que les agriculteurs puissent s'en sortir et ne pas vendre à perte, seul métier qu'il le fait au monde.
Merci Raphaël.
Voilà l'idée.
Raphaël, c'est fini ?
Oui ? C'est fini, messieurs. Ah,
super. Face à toi Raphaël, Anel.
Salut Raphaël.
Bon courage Raphaël.
Il est hermétique au cadre, donc c'est bien la minute. Mais là, on rigole plus, les gars. Il suffit d'enlever le cognac et la balance commerciale en France, elle devient négative de plusieurs milliards. Vous imaginez, on enlève juste le cognac, pof, on n'exporte plus, on importe. 70% des poulets consommés en RHF, ils sont produits en batterie dans les pays de l'Est, alors qu'on déteste ça au niveau des médias, du grand public. On déteste ça, mais c'est ce qu'on bouffe. Donc, il faut arrêter les bêtises. Hein. Faut créer le plan hors sec des filières agricoles et agroalimentaires françaises. Deux choses. La première, on fixe la liste des produits essentiels au quotidien sur lesquels on n'accepte pas de perdre cette souveraineté alimentaire. Deuxièmement, on fixe un seuil d'alerte qui passerait ces filières en observation renforcée et en seuil d'intervention ensuite pour activer des mesures permettant de revenir à l'équilibre sur la souveraineté alimentaire sur ces filières. Il ne faut pas être des enfants de cœur, hein, on ne joue pas avec la bouffe. Hein. Donc prévoyons les outils et les méthodes pour garder notre destin alimentaire en main.
Très bien, on l'applaudit, enfin on les applaudit. Hein. Donc il faut voter soit pour Raphaël, soit pour Anaël pour cette battle numéro 9. Et la 10, elle opposera Jean-Baptiste Vervy et Anaël à nouveau. Jean-Baptiste.
Ah, c'est moi qui démarre. Donc, en fait, l'idée, c'était de... Là, c'est simple, c'est de simplifier le partage de semences entre les agriculteurs. on n'a pas le droit normalement de se vendre en fait des cultures et des semences entre agriculteurs. Or, quand on est par exemple en agriculture de conservation, alors ce qui est mon cas avec mon collègue, on apprend surtout à être agile en fait dans notre assolement et de se dire bah, par exemple là c'est compliqué à semer, bon bah, on n'arrive pas à semer, on sèmera autre chose. Dans les couverts, c'est pareil, à s'adapter. Et à un moment donné, si on veut aller dans ce sens-là, qui est plutôt une agriculture résiliente, il faut être cohérent en nous donnant un peu de souplesse, et ça ne changera pas la face du monde de la génétique en agriculture, un peu de souplesse pour se dire, voilà, je peux semer des semences des uns des autres, tiens, je vais faire du sarrasin parce que j'ai récolté de bonheur, j'en ai pas, ah tiens, j'ai un copain qui a du sarrasin que j'ai chopé sur Facebook, j'en achète un peu, tiens, j'ai un copain qui veut semer du blé dur, paf, 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 et donc de sortir, enfin, de casser un petit peu cette réglementation qui nous freine, qui va dans le sens de la résilience des exploitations agricoles qui cherchent à avoir un autre modèle de production. Voilà.
Parce que c'est vrai, Guillaume Chamoulot, qu'on avait interviewé, disait qu'aujourd'hui, techniquement, ce n'est pas toujours possible d'avoir l'espèce qu'on veut pour semer au moment où on souhaite le semer.
Non mais, soit tu te dis... Alors attention, je vais commencer à faire des dégâts. Soit tu te dis, bonjour, ma coopérative Mon Dégosse, j'aimerais dans la semaine prochaine, parce que j'ai une petite opportunité pour semer telle semence, et à te dire, ah ben non, mais attends, c'est pas celle que j'ai référencée, enfin je l'ai pas au catalogue ou je sais pas quoi, ou attends. Ou tu te dis, bah tiens, j'ai un agriculteur à côté, voilà, il va semer 2 tonnes de blé, si tu veux, ça, enfin, ou de seigle, ou de sarrasin, enfin... Ça n'a pas changé la face du monde. Et à un moment donné, aussi, ça a des coûts, quoi. Moi, je vois quand on se met des couverts... après, il y en a qui le font, peut-être, et c'est très bien. Mais des couverts qui sont préparés tout de suite par... J'ai un grand négoce français, par exemple, qui en fait. Des mélanges tout faits.
S'il vous plaît.
Exemple. Si tu veux, en fait, on sait que ce mélange-là, bah, si tu veux qu'il marche bien, il faut faire 2 fois la dose. Mais au prix où c'est vendu, 2 fois la dose, tu te mets 100 euros l'hectare. Bah, à un moment donné, tu ne fais pas, quoi. Donc, du coup, il vaut mieux avoir des semences que tu as récupérées du voisin, doper un peu ton couvert pour qu'il soit beau, pour qu'il y ait une bonne... un bon travail du sol, un bon travail sur l'agronomie, et du coup aller dans un système qui t'emmène quelque part, qui t'emmène autre part, c'est un système résilient, moins de phyto, blablabla.
Comme vous avez oublié l'idée qu'a présentée Jean-Baptiste, je vous la rappelle de façon simplifiée. Messieurs, dames du GNIS, n'ayez pas peur, ça concerne uniquement les semences dans un but d'agroécologie, on va dire, de donner un petit peu de souplesse pour pouvoir échanger beaucoup plus facilement sans passer par les contraintes qu'il y a d'habitude. Voilà. Annel.
Alors, ben, du coup, moi, c'était une proposition sur l'innovation. L'innovation, c'est souvent vu comme un truc de start-up, rigolo, fun, on a un baby, on échange des idées, et puis, pof, les bonnes innovations émergent comme une innovation spontanée, donc comme une génération spontanée. Ben non, il faut des connaissances, des données, de la rigueur, des compétences. Aujourd'hui, on a plein de data, plein de connaissances, plein de compétences, mais on fait bien attention à les garder dans des petits silos, comme si c'était du blé, là. On le protège bien dans nos silos bien fermés. Il faut faire des échanges informatiques, mais ils sont compliqués, on n'arrive pas à les transférer, puis on les transfère très tard, puis les données brutes, on ne les donne pas. Bref, il y a des connaissances dans les organismes publics, semi-publics. Il faut les ouvrir, les rendre disponibles, ouvrir les tuyaux. Quand on pompe une donnée, on la copie. Ce n'est pas comme le pétrole, on ne la détruit pas. On génère d'autres opportunités de connaissances. Donc il faut une sorte de plan Marshall. Mais contrairement au plan Marshall, c'est un plan Marshall qui ne coûte rien pour créer des innovations frugales à partir simplement des expériences, des connaissances qui sont déjà présentes dans ces silos et qu'il faudra ouvrir. Donc, ouvrez ces silos. Nous, chez FarmLib, on saura comment faire et on pourra produire des nouvelles connaissances avec nos partenaires et aider l'agriculture.
Et je vote presque pour aussi, quoi. Parce que en tant qu'agriculteur, je vote toujours pour les concurrents, moi. Non, mais parce que en fait, en tant qu'agriculteur, je trouve, il y a combien de fois on s'est déjà dit entre collègues, tiens, je cherche à faire tel truc, et puis tu n'as pas l'info. Tu demandes à ton GEDA, ouais. Puis tu as toujours un mec qui se lève la main, tu sais, ah, mais si, on l'a fait il y a 20 ans, ce truc-là, et tout. Et ben, il dit, ben, elle est où la référence, l'information? Parce que nous, ça nous intéresse. Et c'est toujours comme ça. C'est-à-dire qu'on investit beaucoup dans la recherche et on a de l'information à droite à gauche, mais elle est à droite à gauche. Et l'agriculteur qui est le pied sur le terrain, qui c'est lui qui met en application, eh ben lui, il n'a pas forcément toute l'info. Et à un moment donné, il faut libérer ça. Si on veut que l'agriculture, elle change, il faut libérer toutes les études et aussi le savoir des propres agriculteurs. Ça évolue vachement. Les agriculteurs, ils testent des trucs plus que des fois dans les instituts. Hein. Eh ben, il faut libérer ça. Et c'est ce qu'on a sur les réseaux sociaux, d'ailleurs. Ça se libère comme ça. Donc c'est une excellente proposition.
Plan Marshall de l'Open Innovation, il faut voter Anaël. Simplifier le partage de semences entre les agriculteurs dans le cadre donc de
l'agroécologie.
C'est aussi une bonne idée, il faut voter pour Jean-Baptiste. Je rêve, c'est la toute dernière battle. Bon, créer... non, je ne vais pas dévoiler. Anaël d'un côté et Jean-Baptiste de l'autre pour finir. Ouf. Ah non.
C'est Marie-Laure.
Non, mais qui c'est qui a marqué ça sur les...
C'est
Marie-Laure. Marie-Laure qui patiente d'ailleurs en ligne. Marie-Laure, désolée. Marie-Laure,
oui.
J'ai eu peur que tu sois partie. Marie-Laure Gauvin, donc d'Agriman Lab, donc justement qui défend l'idée. Honneur à toi, Marie-Laure.
Ok, l'idée, alors on se replace dans le contexte, c'était l'émission Girl Power. Donc du coup, c'est plus une idée qui a été développée côté féminin, mais qui pourrait très bien être élargie, d'espaces de coworking locaux pour permettre aux porteurs de projets, porteuses de projets et aux agricultrices de se réunir, d'échanger, de stimuler des idées, de créer, de rêver, de se soutenir. Là derrière, c'est vraiment pas de l'échange technique comme on peut déjà connaître, ou de l'échange de pratique, c'est vraiment se donner une chance d'échange pour prendre toute sa place sur l'entreprise agricole, pour occuper pleinement, comme je dis, la zone de leadership, la zone de décision, savoir développer une vision pour son entreprise agricole et puis pour son propre métier. Parce que on se rend compte que dans les exploitations agricoles aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui décident et ce ne sont pas forcément les agriculteurs ou les agricultrices et encore moins les agricultrices ou peut-être le père, le frère, le mari, le modèle familial laisse l'agricultrice à la traite au papier ou autre menu service. Voilà, donc bosser sur toi pour développer une vision pour son entreprise et la façon dont on fait.
Merci Marie-Laure, on aurait dû faire l'émission hier parce que c'était la journée de la femme rurale hier, donc c'était ça serait bien tombé, mais c'est aujourd'hui. Et en face, Jean-Baptiste Vervy.
Et je pense que Marie-Laure, elle le défend vachement mieux la proposition qu'Anaël. On va y aller. Donc moi, attention, là on rigole plus. Parce que je vais parler de sujets qui sont tristes. Il peut arriver dans la vie d'une entreprise qu'on perd son conjoint. Par exemple, on est femme d'agriculteur et qu'on perd son conjoint agriculteur. Et d'un seul coup, on se retrouve avec ce patrimoine-là, des enfants qui ont une partie du patrimoine. Il faut gérer parce qu'ils sont encore mineurs. Il faut suivre le truc. Alors, ça peut être dans l'autre sens aussi. Et du coup, l'idée qu'on propose, que Christiane Lambert, d'ailleurs, avait bien soulevée et encouragé, c'est justement de mettre en place une assurance ou en tout cas un réflexe pour qu'on protège de son vivant finalement la vie de l'entreprise après sa mort et ne pas laisser en fait une difficulté plus grande pour le conjoint qui va déjà vivre un moment pas simple, mais en plus de se dire voilà, si je connais rien en agriculture, comment je fais, comment je gère dans ce cas-là. Et peut-être qu'en amont, on devrait tous se dire voilà, quand je suis décédé en tant que pilote d'entreprise, c'est telle personne qui va reprendre et ça va se passer bien. Et c'est pas les vautours qui vont arriver le lendemain parce que ah bonjour, il y a des gens qui vous causaient plus, qui vous causent parce que d'un seul coup le mari est décédé. Vous inquiétez pas, je vais vous aider, madame. 300 hectares, ça va passer tout seul. Enfin, on connaît, c'est un peu ça, c'est rigolo, mais
c'est classique dans le monde agricole.
Ouais, vraiment, voilà, on connaît le truc. Et plus on l'anticipe, plus pour le survivant et les enfants qui restent, on fait passer quand même cette situation compliquée un peu mieux. Et c'est là où on peut contractualiser avec une ETA avec qui on a confiance, avec un voisin avec qui on a confiance. Et peut-être que dans notre assurance que l'on a, dans nos assurances que l'on a, déjà se dire voilà, mon ETA, je lui verse, je sais pas, 100 euros tous les ans, je dis n'importe quoi, ou 500 euros. Et je sais qu'en cas de coup dur, elle déclenche. Elle arrive et elle ne laisse pas la femme ou le mari tout seul en fait sur cette entreprise.
Merci Jean-Paul. Ouais, je prends la parole après ces propos un peu graves, mais pour rebondir sur la proposition aussi de Marie-Laure, que je salue en tant que Marie-Laure aussi, sur l'accompagnement des femmes porteuses de projets, c'est hyper important d'apprendre aussi à être visible, à se créer un profil LinkedIn quand on est une femme porteuse de projet. Je trouve que les agricultrices sont un peu plus timides sur les réseaux sociaux et en termes de personal branding, c'est ça qu'on dit. Voilà, donc apprenez à vous mettre en avant. Et puis sur le coworking, si vous cherchez à Paris un lieu, ben, je l'ai dit au début de l'émission, il y a Agridée aussi qui peut vous tendre la main. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de nous, femmes agricoles, agricultrices, porteuses de projets.
8 rue d'Athènes, et il y a un site internet. Bravo Jean-Baptiste, tu t'es fait prendre un sandwich là par les deux Marie-Laure. Tout le monde a oublié ton idée.
Mais c'est clair. Mais déjà, l'émission, j'étais la dernière qui était que sur les nanas, j'étais tout seul. Quoi.
Idée, pourtant, elle avait l'air bien. Ouais. Alors, j'ai quand même le rappelé. Donc, avoir une assurance pérennité, c'est-à-dire faire que quand dans un moment difficile, ben, on a pensé avant comment assurer pour son époux ou son épouse la prise en main de techniques économiques de l'exploitation. Et puis, Marie-Laure, donc, qui propose un espace de coworking par région, 100% féminin ou essentiellement féminin. C'est la battle numéro 11. Paula est en train de calculer, bien entendu. Et pendant ce temps, je vais poser quand même une question à Jean-Baptiste. Ça sert à quelque chose, ces émissions, les tontons farmeurs, qu'on fait chaque semaine?
Oui, enfin, nous, enfin, on pense que ça sert à quelque chose, en tout cas. C'est notre volonté.
On en est même convaincus.
Déjà, on se marre.
Oui, déjà, on se marre. Bon, c'est un fait. Je pense que c'est un espace de discussion différent de ce qui existe jusqu'à présent. On a, au travers de ces 12 émissions qui viennent de passer, pas mal de retours d'agriculteurs, de structures autour qui nous disent oh, c'est bien, c'est rafraîchissant, continuez comme ça. On a eu pas mal d'encouragement. Alors, on a dit ah, bah oui, mais notre sponsor, bon, pour l'instant, l'enveloppe elle est usée, donc il faut qu'on en trouve un autre. Donc on va redémarrer certainement. Et donc on sent qu'on apporte quelque chose. Après, nous, notre idée, c'est qu'en tant que co-farming, donc l'association de start-up, donc on est 18 start-up aujourd'hui qui ont des réponses à différents sujets, différentes thématiques. Je vous invite d'ailleurs à aller sur le site du co-farming pour les retrouver. On a tous l'ambition d'aider à ce que les exploitations soient plus compétitives. Et dans le plus compétitif, il y a aussi des fois à s'ouvrir à des façons de penser différemment. Et ce qu'on voulait avec cette émission, c'est justement de casser les codes sur la forme et casser les codes aussi sur le fond, c'est-à-dire d'amener des idées. Alors nous, on n'est pas lobbyistes, on n'est pas syndicalistes, on n'est pas structure d'organisation agricole, on est des gars lambda qui traînent autour du monde agricole, qui ont plus ou moins un pied dedans, dont l'association, il y a des agriculteurs, il y en a qui ne le sont pas, peu importe. On a des idées, on les amène. Si elles sont reprises et qu'elles sont bonnes, bah tant mieux, on a fait avancer l'agriculture. Mais l'idée, c'est aussi de faire avancer les agriculteurs, les cerveaux, faire réfléchir, s'autoriser à penser différemment. Parce que si on veut avancer, il faut s'autoriser à penser différemment. Ce qui tue, c'est toujours faire la même chose comme avant. Ça tue, parce que le contexte, lui, il change. Et si on se fige dans ce qu'on a toujours l'habitude de faire, on n'avancera pas, et même on sera là à gueuler, à dire oh, « on n'est pas content ». Mais oui, mais on ne prend pas son destin en main. Il faut changer, il faut s'habituer à être autocritique, finalement, sur son fonctionnement, et à s'autoriser à changer. Donc les propositions qu'on amène, c'est aussi pour faire évoluer les choses. Donc nous, on les pose comme ça et on espère que des régions, des départements, des agriculteurs, des politiques reprennent en se disant bah tiens, peut-être que c'est pas si con. Agri-idée, c'est aussi pour ça qu'on est là. C'est parce que Agri-idée, qui est un think tank de réflexion sur l'agriculture et le fonctionnement des exploitations, bah peut-être qu'on amène, nous, des idées qu'on a réfléchies honnêtement en une demi-heure. Mais bon, parce qu'il y a longtemps qu'on y réfléchit sur notre tracteur, donc on l'a formulé en une demi-heure. Mais qu'on l'amène peut-être pour qu'elle soit un peu plus fouillée. Alors fouillée, ça ne veut pas dire mettre dans le fond du placard et on la range. Hein. Mais fouillée pour se dire, bah ouais, peut-être, c'est peut-être pas idiot. Et puis regarder ce qui se passe aussi à l'étranger. Enfin bref, évoluer, innover, ouvrir l'esprit, effectivement.
Donc ne pas hésiter à remettre en cause le secteur agricole, et on le voit au travers des idées qui ont été exposées aujourd'hui, il faut se remettre en cause. Deuxième point, bah, vous êtes malin, parce qu'effectivement dans l'émission vous rencontrez chaque semaine deux parlementaires, bah, petit à petit il n'y en a plus que 400 à voir là, pour les prochaines émissions, et on aimerait bien, donc tout d'abord on remercie nos sponsors qui nous ont aidés à nous lancer, Banque Populaire, ouais. Agricale, Emken, tout ça, ouais. C'est vraiment sympa parce que c'est eux qui ont permis de faire naître. S'il y a d'autres sponsors qui ont plein d'argent et ne savent pas quoi en faire, parce que malheureusement il n'y a pas le salon de l'agriculture, ben, n'hésitez pas à nous aider pour faire chaque semaine donc de nouvelles émissions, des nouvelles idées et bousculer un peu le secteur. Et surtout, on n'oublie pas le résultat de la troisième battle. Cyril Battle.
Merci. Troisième battle, Anaël Boscor. Troisième série, pardon. Boscor, deux victoires pour l'ORSEC, enfin le plan ORSEC agricole pour l'alimentation française. et ton plan Marshall de l'Open Innovation. Et ensuite, dernière victoire pour toi, Jean-Baptiste, avec ton assurance pérennité.
Bon, on vous remercie tous. Vous, d'abord, qui nous écoutez, vous qui avez participé via le téléphone en ces périodes un petit peu compliquées. Je remercie aussi, bien sûr, l'association CoFarming.
Oui, on remercie Jean-Paul, parce que c'est les tontons farmers, c'est l'association des deux. C'est Jean-Paul et le CoFarming. Et si on n'avait pas Jean-Paul, on n'aurait pas fait cette émission. Enfin bref, on s'est retrouvés tous les deux. Et bon. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces idées, elles sont retranscrites dans un book. Et si les gens veulent les retrouver, alors nos auditeurs, les agriculteurs, les politiques, les responsables de structures agricoles qui se disent « tiens, il y a peut-être des trucs à regarder », ils tapent sur Google « book des tontons farmers » et ils vont trouver le formulaire pour pouvoir s'inscrire et récupérer en fait ce livre blanc, et c'est super important. Et puis, tous les auditeurs qui aiment les tontons farmers, vous allez sur notre page Facebook ou sur nos comptes réseaux sociaux, Twitter aussi, et donnez-nous des idées, parce qu'il y a un truc. Croyez pas qu'on va s'arrêter là comme ça. On va redémarrer un jour ou l'autre.
Ouais, peut-être en novembre. Hein. On a bon espoir de redémarrer chaque semaine, avec des idées comme ça. En podcast, en radio. Donc, je voulais finir quand même par un point important. Si vous trouvez que quand même il y avait des bonnes idées à repêcher, vous pouvez toujours voter, je crois, Paula. Sur Twitter.
Oui, tout à fait. On va mettre les sondages dans le week-end ou la semaine prochaine sur Twitter si vous voulez toujours participer.
Ils sont déjà présents, dit Anaël, qui est au courant de tout. Voilà. Donc, pour finir, je vous remercie bien sûr tous d'avoir assisté à cette émission. Vous pouvez nous retrouver sur la chaîne YouTube Power Boost, bien sûr, avec plein de nouvelles émissions. Et puis, on va se retrouver au mois de novembre, j'en suis certain. Merci à vous.
Merci.
Merci le public.
J'avais soif.